France Culture.
France Culture, question du soir. Matteo Carantin.
Il y a un peu plus d'une semaine, Elon Musk, encore lui, a annoncé la fusion de deux de ses sociétés, son réseau social X et son application d'intelligence artificielle XAI. Une fusion pour atteindre un rêve, celui de créer l'app ultime qui centraliserait toutes les transactions sociales et commerciales de ses internautes. Une plateforme unique pour accélérer le progrès humain, a déclaré l'homme le plus riche du monde. Voiture autonome, colonisation sur Mars, ambition transhumaniste, Elon Musk incarne et revendique une nouvelle définition du progrès. Le mot pourtant semblait être passé de mode, tant il avait été usé, modelé, réutilisé à des fins contradictoires, séparé de l'idéologie qui lui était attachée, le progressisme. Alors, sommes-nous à l'aune d'une nouvelle ère de l'idée de progrès? Le progrès a-t-il de l'avenir? Comment l'histoire du mot et de son usage permettent d'en saisir les tensions contemporaines? On en parle ce soir avec notre invité, Wolf Feuerhahn. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien des sciences, chercheur au CNRS, et vous venez de publier dans la collection Le mot est faible des éditions Anna Moser un petit livre consacré justement au progrès. Bienvenue dans Questions du soir et merci d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Mars va être vraiment important pour la préservation de la civilisation ou de la vie telle que nous la connaissons. Plus simplement, l'humanité va apporter la vie sur Mars. Il n'y a aucune vie que nous puissions détecter actuellement à la surface de Mars, peut-être une vie bactérienne souterraine, mais en apparence, il n'y en a pas. Ce serait donc l'extension de la vie terrienne sur une autre planète. Et je pense que cela ferait une énorme différence avec le prolongement de la civilisation humaine. C'est donc un peu comme une police d'assurance, une police d'assurance vie collective. Alors vraiment, quel genre d'avenir voulez-vous avoir? Voulez-vous avoir un avenir dans lequel nous serons à jamais confinés sur une seule planète ou dans un avenir où nous explorerons les étoiles et plusieurs planètes? Je pense que cette proposition est bien plus excitante et inspirante et que c'est préférable plutôt que d'attendre une extinction.
Voilà, nous venons d'entendre pour introduire cette émission consacrée à l'idée de progrès, la voix de celui qui monopolise régulièrement l'attention publique mondiale, Elon Musk. Alors, qu'est-ce que veut dire progrès dans la bouche d'Elon Musk, Wolf Feuerhahn?
Ouais, alors bravo pour cet extrait qui est vraiment très représentatif, au moins d'un de ses usages, on va dire. Parce que Elon Musk est en fait a tendance à utiliser le mot dans deux sens très différents et très opposés. Mais le premier sens, c'est effectivement celui-là, c'est celui qui s'inscrit dans un projet qui est plus qu'un projet technologique, qui est un projet aussi pour l'humanité ou pour une certaine humanité ou pour une élite au sein de cette humanité, dans un cadre transhumaniste, effectivement, qui se voit aussi qui se voit à la fois par le développement de SpaceX, qui se voit surtout par le développement de Neuralink, qui est cette entreprise qui est chargée de développer des implants cérébraux pour pouvoir justement augmenter les connaissances mémorielles, pour pouvoir ensuite éventuellement mettre en connexion les cerveaux et l'intelligence artificielle. Bref, il y a toute une réflexion globale sur cette idée d'un projet transhumaniste vers Mars, en direction de Mars. Et ceci se fait avec, évidemment, l'idée que cette Terre, s'il faut la quitter, ce n'est pas parce qu'elle serait complètement polluée, mais simplement parce qu'elle serait trop petite par rapport à nos ambitions ou à ses ambitions interplanétaires.
Est-ce que c'est une nouvelle manière d'utiliser le mot progrès ?
Alors là où c'est assez nouveau, on va dire, c'est que c'est très radical. C'est une restriction du terme au sens uniquement industriel et technologique, et surtout là, ici, technologique. Et puis, ça va de pair, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec un autre usage qui est vilipendé chez lui, qui est l'expression « progressive ideologies », qui, pour le coup, est...
Idéologie progressiste.
Donc, idéologie progressiste, voilà, c'est ça, qu'il dénonce, c'est-à-dire le droit des minorités, des femmes, de l'environnement, des droits sociaux, etc., qui sont, eux, à mettre à distance.
Et c'est cela, hein, qui est intéressant lorsque on s'attache à regarder d'un peu plus près l'histoire du mot progrès, des discours du progrès, c'est que il a une histoire conflictuelle avec le progressisme. Ils se sont à la fois trouvés, ils ont été ensemble, ils se sont séparés, retrouvés, reséparés, on pourrait dire. Comment est-ce que aujourd'hui, est-ce que on est arrivé à la fin de ce lien entre progrès et progressisme? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ce sont deux pôles presque opposés, d'un côté le progrès, de l'autre le progressisme, et qui pourtant parfois peuvent faire fourcher les langues et confondre les esprits?
Alors, dans la bouche d'Elon Musk, très probablement. C'est-à-dire que là, effectivement, en tout cas, lui, ce qu'il appelle « progressive ideology », c'est ce qu'il condamne. Mais ce n'est pas le cas nécessairement partout. C'est une vision particulièrement forte et caricaturale. Mais ce n'est pas le cas du tout partout. Et ce n'est pas le cas, par exemple, chez un Emmanuel Macron, chez certains libéraux, etc., qui, au contraire, ont tendance à revendiquer le progressisme et à le refaire basculer du côté, si on regarde le spectre politique centre-droit, là où il était traditionnellement depuis au moins 1945, dans un espace de gauche, on va dire, au sens large.
Alors, je vous propose qu'on revienne en arrière, justement, et peut-être on va regarder la manière dont progrès et progressisme se sont intriqués au fil de l'histoire et comment ils ont appartenu peut-être à différentes sphères politiques. Le progrès, qui a longtemps désigné juste un mouvement vers l'avant, il faut attendre la Révolution française, écrivez-vous, pour que le terme s'impose pour désigner une forme d'émancipation, une possibilité pour les hommes d'améliorer leurs conditions d'existence.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que longtemps, progrès a à la fois signifié quelque chose qui allait vers le meilleur et vers le pire, et en tout cas, c'est le cas jusqu'à la fin du 18e, en gros. Et
ça c'était juste un changement d'état, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et ça va changer à partir de ce moment-là, où effectivement, ça n'aura plus que le sens d'aller vers le meilleur. Toute la question étant de savoir quel est le meilleur en question.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la Révolution française, le mot progrès? Quelle signification est-ce qu'il prend à l'aune de la Révolution française?
Alors, au moment de la Révolution française, il n'est jamais utilisé tout seul. Il est toujours utilisé avec un complément ou au moins un adjectif, mais la plupart du temps avec un complément. Donc, le progrès des sciences et des arts, le progrès de l'esprit humain, le progrès de la raison. Et donc, c'est ça qui est l'enjeu. Et le progrès tout court, on va dire, tout simple, en absolu, si vous voulez.
Progrès avec un P majuscule.
Avec un P majuscule, ça, comme un quasi-nom propre, ça apparaît, on va dire, dans les années 1820-1830, mais pas au moment de la Révolution.
Ce qui est intéressant, c'est que vous écrivez que finalement, le progrès crée un nouveau régime d'historicité, c'est-à-dire une nouvelle manière de se représenter le temps. À partir de la Révolution française, le progrès signifie aussi un mouvement de civilisation.
Voilà, c'est ça. Et c'est plutôt la réaction des contre-révolutionnaires qui va accroître le point névralgique autour du progrès, le fait qu'il devienne une pomme de discorde.
D'accord. Alors justement, comment est-ce que le progrès se développe dans la société française? Vous dites ce sont les contre-révolutionnaires qui lui ont donné. C'est un effet stressant avant l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les tensions déjà qui se jouent à l'orée entre le 18e et le 19e siècle?
Eh bien, justement, c'est la réaction au texte, par exemple, de Condorcet, des contre-révolutionnaires français du début du 19e siècle, qui vont pourfendre ce que Condorcet présentait comme le progrès de la raison, comme une décadence et comme, au contraire, une marque de dérédiction, des mœurs, etc. Et donc, il s'agit de rompre avec ça.
C'est quoi? C'est les modernes contre les anciens, c'est ça?
Alors, ils peuvent rejouer cette partition qui est une partition plus ancienne de la fin du 17e, mais plus généralement, il s'agit effectivement de défendre surtout les valeurs de l'ancien régime qui menaçait par la Révolution.
D'accord. Alors, vous racontez par la suite dans le livre comment s'installe le mot progrès dans le quotidien des Français au 19e siècle. Est-ce que dire progrès en 1820, c'est comme dire IA en 2023, Wolf Feyran?
Je ne pense pas, parce que là, il s'agit pas d'un dispositif technique ou technologique en 1820, mais il s'agit effectivement de lire le temps plutôt. Hein, c'est lire le temps et son évolution, et d'orienter l'action des hommes avec un référentiel qui commence à être très fort à partir des années 1820, qui est le référentiel britannique, la révolution industrielle essentiellement.
Et donc, le progrès à ce moment-là n'est pas encore le progrès social.
Le progrès n'est pas encore le progrès social, il le devient, moi je le date plutôt des années 1830, au moment de la révolte des Canuts, on va dire.
Racontez-nous.
Alors, la révolte des Canuts, donc cette révolte des ouvriers de la soie à Lyon, dans lequel, au cours de laquelle donc ces ouvriers justement protestent contre la définition du progrès défendue par la monarchie de Juillet et pour laquelle ils vont défendre une alternative qui serait un progrès social. Et pour eux, le progrès n'a de sens que si les conditions de travail, les conditions sociales, les conditions de rémunération sont à la hauteur de ce qu'on appelle la mécanisation ou les premières mécanisations, notamment du travail de la soie.
Est-ce que c'est à partir de là qu'il y a déjà une dissociation politique du mot progrès? Qu'est-ce que l'historien François Jarige évoque dans un livre qu'il a également écrit sur le progrès, le philosophe Charles Fourier, qui dès les années 1830 parle du progrès comme d'un jargon qui ne veut pas dire grand-chose, qui est utilisé pour dissimuler une série de problèmes. Quelle est la fonction politique du discours du progrès dans ces années-là, Wolf Eran?
Mais là, c'est vraiment par rapport au libéralisme tel qu'il s'installe au tournant des années 1830 et en particulier avec la monarchie de Juillet que l'enjeu devient qu'est-ce qu'on fait de ce progrès, de quoi est-ce qu'il doit être vecteur, sur quoi est-ce qu'il doit porter. Et c'est toujours la question, à partir du moment où on a un progrès qui est un nom propre, absolu, sans spécification, sans adjectif, on parle de choses qui peuvent être très variées. La question est celle du critère. Est-ce que c'est un progrès social, un progrès économique, un progrès industriel?
Et on voit des gens, des personnages, des philosophes très contradictoires, de Guizot à Proudhon, qui vont s'emparer du progrès. De quelle manière est-ce qu'ils s'en emparent?
Alors Guizot est assez intéressant parce qu'il il a une représentation aussi assez élitiste du progrès. C'est-à-dire qu'on a une élite libérale qui est censée guider la masse, qui doit suivre le rythme du progrès. Donc il donne aussi le rythme. Et après, on a toute une série de critiques qui vont à la fois, pour une part, critiquer le progrès, mais surtout vouloir lui adjoindre toute une dimension sociale. Je pense notamment au ministère du Travail et du Progrès, voulu par Louis Blanc au moment de la révolution de 48.
Voilà, et de l'autre côté, le progrès s'attache déjà à la gauche au milieu du 19e siècle et aux luttes sociales avec cette idée contre-intuitive. Peut-être vous pouvez nous raconter comment, parmi les acteurs de la société, ce sont les artistes qui sont les plus critiques, les contenteurs du progrès.
Alors ça, c'est effectivement assez intéressant. C'est qu'on se rend compte qu'à partir de Balzac, Baudelaire et même Théophile Gautier dès les années 30, on a un discours qui se développe avec l'émergence de l'idée d'une autonomie de l'art, qui est que l'art doit être, s'il est vraiment art, il doit être désintéressé. Et donc, il doit s'éloigner de l'utilité. Et donc, qu'il n'est pas un instrument. Et dans ce cadre-là, le progrès apparaît comme un outil, comme le fait de bourgeois intéressés par un gain immédiat, là où les valeurs éternelles de l'art nous font échapper au progrès, au rythme du progrès, qui est magnifié dans les expositions universelles que critique quelqu'un comme Baudelaire, par exemple.
Balzac écrit les progressistes sont des philosophes en tout et frileux en politique. Peut-être la citation est légèrement tronquée. Qui sont les progressistes dans les années Alors évidemment, on célèbre le progrès technique, on célèbre les expositions universelles, la fée électricité, mais qui sont ceux qu'en politique qui se revendiquent les progressistes? Vous disiez, la gauche a, disons, été propriétaire de la notion de progressisme après 1945. Au début du XXe siècle, est-ce que c'est déjà la gauche qui est la tenante, qui se revendique progressiste?
Alors, au tournant du 19e, 20e siècle, oui, les socialistes et les radicaux socialistes et les radicaux sont des tenants du progrès, même si certains, comme Jules Ferry, disent qu'il est très important d'avoir une articulation entre ordre et progrès. Et donc là, on reprend l'articulation proposée par Auguste Comte pour justement essayer aussi tempérer l'extrême-gauche ou ceux qui est perçu comme l'extrême-gauche par cette gauche de gouvernement.
Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. 3 jours après, c'était le tour de Nagasaki. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix ?
Alors je me permets un saut en avant, Wolf Eran, avec cette archive de l'INA de 1945 pour explorer la manière, dans la modernité plus récente, la manière dont cette modernité a négocié avec cette idée de progrès, en particulier après 45, c'est une chose connue, la barbarie nazie comme la bombe atomique chamboule toutes les conceptions préétablies du progrès, en faisant voir peut-être l'extrémité prométhéenne du progrès technique. Une fissure qui est fondamentale dans le chemin du discours du progrès et de son idéologie, avec cette idée que le progrès peut mener l'humanité à sa perte. Et vous prenez un exemple, l'exemple du philosophe juif allemand Karl Lovitz, exilé aux États-Unis, qui publie en 1949 un ouvrage intitulé « Meaning in History » et qui alimente, vous le dites, encore aujourd'hui les discussions sur le progrès. Il fait du progrès une forme de séculière de religion. Quel est le débat après la Seconde Guerre mondiale sur la question du progrès? Et à partir de là, comment est-ce que les discours sur le progrès évoluent?
Après 1945, il y a plusieurs débats qui ont lieu dans des sphères différentes, dans des arènes différentes. Il y a des débats ou des questionnements au sein du monde des physiciens, et notamment ceux qui ont participé au projet Manhattan et Hiroshima. Vous avez entendu la musique qui accompagnait cette archive sonore, elle est assez glaçante.
Dans de l'ordre de l'épique, alors qu'on est en train d'assister à quelque chose.
Le Monde titre au moment du bombardement d'Hiroshima, une révolution scientifique. Donc c'est dire combien à l'époque les choses sont perçues, en tout cas médiatisées. Et ce qui est très, très intéressant avec Hiroshima, c'est qu'en réalité, même les promoteurs qui vont être critiques une part des usages de la bombe atomique ne vont pas nécessairement critiquer précisément la découverte ou la découverte ou l'invention scientifique et technologique en elle-même, mais uniquement son usage. Donc à partir du moment où on aurait des hommes politiques responsables, il n'y aurait pas de problème. Et ça reste longtemps, ça reste très longtemps dans le monde des scientifiques, une doxa. Là où les choses se changent, sont un peu différentes, c'est plus dans le milieu des philosophes, chez certains philosophes même, il faudrait dire. Par exemple, quelqu'un comme Günther Anders, par exemple, qui va critiquer, lui, la mentalité de progrès dans les années 50, et donc vraiment montrer combien est-ce que, pour lui, le progrès est vecteur du contraire de ce qu'il est censé amener, c'est-à-dire la barbarie. Alors, pour Lovitz, c'est un peu différent. Lovitz, c'est un cas intéressant parce que c'est effectivement un disciple de Heidegger qui a fui le nazisme parce qu'il était juif, mais qui publie ce livre, Meaning History, qui, en réalité, nous montre comment le progrès ne serait qu'un avatar séculier du salut, et que donc, à ce titre, il serait à dénoncer parce que, précisément, il ne nous fait pas échapper à cette représentation eschatologique de l'avenir. Et en réalité, ce qui est compliqué, c'est que il est utilisé par des acteurs qui étaient proches du nazisme.
Comme Carl Schmitt notamment.
Notamment par Carl Schmitt. Parce que précisément, en dénonçant une sorte de très longue généalogie comme ça du progrès, il dédouane quelque part une spécificité nazie. Et donc c'est ça qui est assez intéressant. Alors c'était évidemment pas volontaire de la part de Lovitz, mais de la part de Carl Schmitt qui fait immédiatement traduire le livre en allemand, notamment avec l'aide de quelqu'un comme Kozelek. L'idée c'est précisément de faire en sorte que on parle de quelque chose qui est un mouvement beaucoup plus large que simplement le nazisme, dont la responsabilité apparaît comme assez diluée finalement.
Et cette idée d'un progrès comme une forme, vous parliez à l'instant de téléologie, enfin en tout cas d'une sorte de destin humain, de remplacement d'une sorte de nouveau dieu, le dieu de la modernité, cette traduction en allemand par Carl Schmitt, oui, elle a également elle-même un succès contradictoire, puisque c'est l'école de Francfort, et en l'occurrence des philosophes plutôt marqués à gauche, qui vont s'en emparer comme Adorno.
Alors pour Adorno, ce qui est intéressant, c'est qu'il a publié déjà avant, en 1944, avec Horkheimer, La dialectique de la raison. dans lequel le rapport aux lumières est évidemment un rapport critique, un rapport qui montre justement comment les lumières se seraient renversées en leur contraire, en une barbarie, mais en même temps avec une sorte d'espoir qu'on puisse inventer une nouvelle forme de progrès, une forme de progrès qui inclut la critique. Et donc c'est ça le pari d'Adorno.
Est-ce que c'est pas là la dissociation entre progrès et progressisme? À partir du moment où on peut penser un progrès qui inclut la critique du progrès? Une idée du progrès qui inclut sa propre critique.
Ça pourrait être ça. Pour certains, ce sera très certainement ça. Pour d'autres, ce sera une vision beaucoup plus simpliste du progressisme. Et pour certains, très certainement. Et donc, chez Adorno, en tout cas, il y a cette idée selon laquelle il faut systématiquement inclure la négativité, inclure la critique, pour pouvoir démanteler les effets barbares, potentiellement barbares, qu'un progrès purement technologique pourrait apporter.
Alors aujourd'hui, la critique de la religion du progrès est partie intégrante de la réflexion écologique et des sciences du climat. Est-ce que c'est par les scientifiques, est-ce que c'est par la politique que cette critique de la religion du progrès est arrivée, Wolf Eran?
Ben là aussi, dans l'écologie politique, je trouve ça compliqué parce que, je suis désolé, mais tout simplement parce que le progrès est en fait quelque chose auquel les écologistes n'abandonnent pas nécessairement les écologistes. Simplement, ils ont tendance à le pluraliser et à questionner certaines formes de progrès et ne pas le réduire à un progrès uniquement technologique. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est justement ça. Et c'est plutôt les adversaires des écologistes qui les perçoivent ou qui les critiquent comme des obscurantistes, comme des gens qui sont archaïques et qui ne n'ont plus qu'à retourner dans le monde des Amish.
Mais on a vu l'usage du progrès, parce que d'un côté, progrès écologique, vous le dites, il peut être revendiqué, tout comme le progrès social, et ça, c'est évidemment toute l'histoire de la gauche. D'autre part, il y a également donc à la fois une critique progressiste du progrès, une critique conservatrice du progrès. Est-ce que le mot a encore un sens? Est-ce qu'il est encore une catégorie pertinente pour penser le contemporain, puisqu'il veut tout dire et son contraire?
Pour moi, il est surtout un analyseur du contemporain, c'est-à-dire qu'il permet de voir les luttes et les enjeux. C'est un mot d'ordre pour certains, c'est un terme qu'on objecte pour d'autres, qu'on rejette pour d'autres chez les conservateurs, surtout progressisme. Donc, à ce titre-là, c'est un objet de débat, de controverse, mais il l'est, à vrai dire, depuis quasiment le départ. En tout cas, depuis le 19e siècle, c'est très clair. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, il était intéressant, parce qu'il permet de retracer une histoire différente de ces deux siècles, on va dire.
Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Voilà, applaudissements. Alors cette phrase, vous l'aviez citée juste avant, mais ce qui est aussi intéressant dans cet extrait d'Emmanuel Macron, lorsqu'il parle de la 5G contre le modèle d'Amish devant des entrepreneuses et entrepreneurs de la French Tech, c'était en 2020, c'est le mot innovation. Je vous demandais si le progrès était encore une catégorie pertinente. On voit qu'il y a de nouveaux mots, de nouveaux discours qui sont produits, comme si le progrès avait été abandonné. Est-ce que l'innovation est le futur du progrès?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mobilisation récurrente du progrès. Je ne pense pas qu'on s'en débarrasse comme ça. Et mon idée n'était pas de faire une police des mots du tout, police lexicale, mais au contraire d'essayer de saisir en quoi est-ce qu'il pouvait être mobilisé par des acteurs très différents, avec des volontés très différentes. Et ici, voilà, il s'agit de ringardiser un adversaire dont on balaie les arguments en les ridiculisant au titre d'Amish. Voilà. Donc on est dans un usage qui est d'abord un usage critique, un usage dénonciateur et un usage qui n'est pas un usage nuancé de progrès. Et donc ça, c'est un des enjeux pour moi, qui est celui de revenir sur les mots, c'est-à-dire d'essayer de voir clair dans la diversité de ces usages pour essayer de saisir en quoi, en réalité, ce sont parfois des armes de destruction massive pour certains, des armes rhétoriques pour d'autres, et au contraire des faire-valoir ou des étendards pour quelques-uns.
Alors voilà, nous sommes peut-être ce soir un peu plus éclairés. Merci beaucoup, Wolf Rahn, d'être venu présenter votre livre Progrès, paru aux éditions Anamosa dans la collection Le Mot est fait. Merci également à Bertie Bourdon pour la préparation de cette émission, Stéphanie Villeneuve à la programmation, à la réalisation François Richer, et ce soir à la technique, c'était Sofiane Akhtib. Bonne soirée à tous.